sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Bonjour, c'est Raphaël sur Radio Bus. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathia et de Daniel et nous allons parler Moyen-Âge. Plus précisément, nous allons évoquer la question des ressources naturelles. Merci d'être là aujourd'hui.
Merci à toi, Raphaël.
Tout d'abord, une question pour les auditeurs. Savez-vous quel matériau était le plus utilisé afin de se chauffer durant le Moyen-Âge? Mathia, as-tu la réponse?
Oui, le bois, évidemment.
Eh oui, le bois était indispensable à la vie quotidienne des individus. Que ce soit pour se réchauffer à la maison ou bien cuire sa nourriture, le bois est le vrai pétrole du Moyen-Âge. Malheureusement, le bois a été si utilisé que de nombreuses pénuries ont eu lieu. Nous écoutons à présent Mathia qui va nous éclairer sur ces pénuries.
En effet, j'en connais un rayon sur ces pénuries, liées au bois et surtout aux conséquences qu'elles entraînent. Savais-tu qu'au XVIe siècle, il y a une forte diminution des ressources de bois disponibles dans les forêts du Toulousain?
Non, dis-moi en plus.
Pour commencer, d'un point de vue économique, la quantité de bois disponible a une influence sur le prix de celui-ci. En effet, plus une ressource est rare et convoitée, plus le prix sera élevé. Heureusement, pour la population locale, les municipalités peuvent empêcher ce problème en centralisant le commerce du bois dans des points stratégiques.
Mais alors, si les bois devenaient aussi chers, comment faisait l'autorité publique pour être sûr que personne n'est fraude?
Eh bien, c'est très simple. Il suffisait d'écarter les courtiers des transactions. De plus, pour empêcher les marchands de se faire trop de profit sur le dos des consommateurs, le Parlement avait même instauré une amende de 100 marks d'or pour tout commerçant voulant vendre en dehors des lieux prévus. Dans le cas contraire, les autorités pouvaient réquisitionner l'excédent de bois pour rétablir une bonne distribution des ressources. Pour finir, le seigneur de l'Isle-le-Jourdain a même réussi à mettre la forêt sous garde royale pour empêcher les habitants de se réapprovisionner.
Et pour quelle raison le seigneur voulait-il protéger la forêt?
Moi, j'ai une réponse à cette question. Les forêts créaient non seulement des problèmes de pénurie, mais c'était aussi en lieu des conflits d'usage. Par exemple, la chasse, qui au Moyen-Âge était une activité uniquement réservée aux nobles et aux seigneurs. Les paysans entraient alors souvent en conflit avec les aristocrates qui essayaient de protéger les forêts afin de continuer leurs activités sans être dérangés.
Ils n'allaient tout de même pas mettre des gardes à chaque fois qu'il y avait un problème, non?
Eh bien, tu as raison. Ils appliquaient une autre solution à ces problèmes. Les gouvernements établissaient une taxe pour entrer dans la forêt. Après avoir payé, une personne a le droit d'entrer et ramasser du bois mort et sec. Cependant, n'entrant pas dans les zones appelées défensi, mot provenant du latin. Ces zones sont des endroits réservés uniquement aux seigneurs pour pouvoir y chasser. Cela résout deux problèmes en même temps. On ne coupe pas les bois vivants et utilisons tout d'abord les bois morts et secs. Ceci a aidé en partie à régler les problèmes des pénuries, mais aussi a permis de résoudre des conflits entre les paysans et les nobles.
Mais si le manque de bois posait autant de problèmes, n'existait-il pas d'autres ressources pouvant le remplacer? J'ai entendu parler d'un autre matériau qui s'appelle la houille et qui permet également de chauffer les habitants.
Oui, la houille est un charbon de terre qui fut utilisé lors des pénuries de bois. Malheureusement, la houille n'a pas eu un grand succès à cause de son odeur désagréable.
D'accord. Merci Daniel et Mathia. C'est fini pour la chronique d'aujourd'hui. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly.
We'll be right back.
Bonjour à toutes et à tous. On continue notre émission, mais cette fois-ci avec Alberto. Nous allons parler des écoles suisses au 19e siècle dans le cadre de notre étude à l'école de l'école lyonnaise à la fin du 19e. Nous allons voir que certains aspects ne changent pas depuis très longtemps, alors que d'autres ont beaucoup évolué les derniers siècles.
Bonjour tout le monde.
Alberto, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur l'histoire du système d'éducation actuel ?
Bien sûr. Nous voyons le système ressemblant au système d'éducation actuel apparaître justement au 19e siècle. L'influence de religion sur l'éducation disparaît petit à petit. Les professeurs commencent à être formés dès l'apparition des écoles primaires et nous passons de l'éducation personnelle au système de classe avec quelques dizaines d'élèves. Ce système permet bien évidemment de former beaucoup plus d'enfants en même temps. Et il fallait aussi un certain temps pour que des parents envoient ses enfants en école plutôt que de les employer quelque part. De tels changements se font progressivement et vu que la Suisse est une confédération, il fallait du temps pour que tous les cantons suivent les changements. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'école à nous. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur les différences entre l'école lyonnaise et l'école actuelle ? Enfin, l'école lyonnaise au 19e siècle.
Bien évidemment, la première différence qui saute aux yeux est l'écriture. Nous voyons bien que la qualité est clairement meilleure. Même si aujourd'hui il est difficile de lire ce que les profs et les étudiants écrivaient, il est évident qu'il y avait des cours de calligraphie en école primaire. Et cette habitude restait même dans les écoles secondaires du 19e. Aujourd'hui, cela n'est pas le cas. L'écriture à la main a perdu en qualité. En échange, nous travaillons de plus en plus en utilisant les ordinateurs.
Est-ce qu'il y a alors des similarités ?
Il existe beaucoup de points communs entre l'école actuelle et au 19e. Tout d'abord, en ce qui concerne l'école primaire, elle était déjà obligatoire et gratuite. Les garçons et les filles étaient déjà mélangés, et un seul maître enseignait toutes les disciplines, et une formation de base était garantie dans certains domaines.
Et quels sont ces domaines exactement ?
Alors, en langue maternelle, première langue étrangère, maths, individu et environnement, éducation physique, musique et activité créatrice.
Ah oui, effectivement, ces domaines sont des domaines qui sont encore enseignés aujourd'hui. Parlons à présent des progrès réalisés par les écoles. Il est important de savoir que si l'apprentissage en Suisse a évolué, c'est en grande partie grâce aux instituteurs.
Oui, c'est clair. Tout d'abord, il y a une différence au niveau de formation. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il suffisait d'avoir certaines connaissances comme savoir lire, écrire et compter afin d'enseigner. À partir du 19e, c'est le début d'une professionnalisation plus lente. Les instituteurs se forment et cela leur permet de transmettre plus de connaissances. Grâce aux écoles normales, la formation d'enseignants est allongée de 2 ou 3 ans, ce qui donne aux enseignants une meilleure réputation. Même si les classes au 19e siècle étaient trop chargées, probablement dû au manque d'infrastructures, pas assez d'écoles et au manque de professeurs, car le système d'éducation était à nouveau à l'époque et il a fallu du temps pour s'adapter.
En conclusion, l'école en 19e siècle ressemblait à celle d'aujourd'hui. Même si la présence de la religion influençait encore l'éducation, elles avaient des habitudes différentes, comme l'écriture.
D'accord, merci beaucoup Daniel. C'est bien fini pour aujourd'hui sur cette chronique sur l'école. Merci de nous avoir...
in the ceiling, hey, ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly?
Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly?
Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle chronique qui porte sur le chaînon manquant et l'Australopithèque. Je suis en compagnie de Raphaël et Alberto pour vous éclairer sur le sujet.
Bonjour, dis-moi, c'est quoi le chaînon manquant ?
Le chaînon manquant, dans le cadre de cette étude, est le lien entre une espèce et son ancêtre. Ce chaînon permet à la fois de faire un lien entre les espèces, mais surtout de provoquer un décalage entre elles, car si on cherche le lien des deux espèces, c'est qu'elles ne sont pas égales.
Ah ok, je comprends mieux, mais alors nous, les humains, nous avons un chaînon manquant ?
Bonjour à tous. Oui, bien sûr. Le découvrir n'a pas été aussi simple que l'on en pense. En effet, vers le 19e siècle, la démarcation de l'homme par rapport aux animaux était très importante.
Oui, c'est vrai. Il fallait donc trouver un chaînon manquant qui pouvait prouver que l'humain se démarque bel et bien du singe. Mais plutôt que continuer à chercher en espérant de trouver ce fameux chaînon manquant, les chercheurs ont construit un portrait robot des caractères à la fois simiesques et à la fois humains.
Et alors ils l'ont trouvé ?
Ils l'ont trouvé, certes, mais vu que le squelette qui, parenthèse, appartenait à celui d'un Homo erectus, ne correspondait pas au portrait fait par les scientifiques, il a été rangé dans un placard pendant des décennies.
Tout cela est bien beau, mais je ne sais toujours pas quel est le chaînon manquant.
C'est vraiment dommage. T'as sauté une ligne.
Ah merde.
C'est pas grave, vas-y, fais.
Oh non, je suis trop content, je m'étais perdu. C'est vraiment dommage, ça.
Oui, c'est clair. De plus, il y a eu des soi-disant découvertes comme l'homme de Piltdown, qui sont des fausses découvertes servant uniquement à satisfaire le public.
Tout cela est bien beau, mais je ne sais toujours pas quel est le chaînon manquant.
C'est simple, le chaînon manquant a été découvert en premier lieu en 1948. À cette époque, M. Broom pense avoir trouvé deux types d'australopithèques.
Cela a fait beaucoup avancer l'histoire, quand on pense enfin établir qu'il y a eu une évolution entre les différents genres homo.
Suite à cela, on commence donc à penser à intégrer le système d'évolution proposé par Darwin sous forme de buisson. On accepte de plus en plus que l'homme soit en réalité un animal, aussi qui a suivi une évolution comme tous les autres.
Donc si j'ai bien compris, en conclusion, l'homme préhistorique devient donc pensable grâce à la découverte des différents chaînons qui composent la chaîne d'évolution de l'homme, et cela a permis d'intégrer la notion d'évolution et donc définitivement contrer la genèse.
Oui, c'est exactement ça.
Merci à tous de nous avoir écoutés et je remercie également nos invités qui nous ont éclairés sur ce sujet.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fake news, mais plus précisément de celles qui concernent les chemtrails.
Pour commencer, qu'est-ce qu'une fake news slash inox ? C'est une action délibérée qui consiste à propager une fausse information en rapport avec un sujet précis qui a souvent un intérêt manipulateur derrière.
Donc les intox ne sont pas des simples mensonges issus d'une possible confusion ?
Les fake news peuvent être faites sans se rendre compte que c'est véritablement quelque chose d'incertain ou faux. Mais souvent, un groupe de personnes vont essayer de tirer profit des intox jusqu'au point d'en créer pour leur propre intérêt.
Dans ce cas, les chemtrails, c'est une intox, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Mais c'est quoi un chemtrail ? Quel est le mensonge ?
Le concept des chemtrails est une théorie conspirationniste qui cherche à faire croire que les traînées blanches que les avions laissent dans le ciel est faite à base de produits chimiques délibérément répandus dans le ciel par des agences gouvernementales cachés au grand public. Leur but serait de contrôler la population et la météo.
En vrai, je ne me suis jamais posé la question de quels sont les composants des traînées que je vois tous les jours. Mais si vous me dites qu'il s'agit d'une intox, de quoi est véritablement composée la traînée blanche que les avions laissent derrière eux?
C'est tout simplement de la vapeur d'eau issue des moteurs des avions.
D'accord, mais dans ce cas-là, comment peut-on les prouver?
Le meilleur moyen est de vérifier cette information auprès des sites qui se spécialisent sur les avions et les moteurs à combustion et non pas seulement croire aux informations fugaces que l'on peut voir un peu partout, comme par exemple dans les réseaux sociaux.
C'est vrai que cette histoire des chemtrails est quand même un peu bizarre. Mais alors, quel est l'intérêt de faire croire cela? Qui va en profiter?
Parfois, comme je l'ai mentionné avant, les théories conspirationnistes n'ont pas comme but d'en tirer profit. Et il s'agit seulement d'un groupe de personnes convaincues que la théorie est vraie et en suivant les fake news qui nourrissent leur imagination. Ils finissent par tout simplement comprendre, convaincre d'autres personnes.
Donc, comment peut-on savoir s'il s'agit d'un mensonge cherchant à tirer profit des gens?
On ne peut pas vraiment le savoir, car le problème c'est qu'on ne peut pas toujours retrouver la personne qui est à la base de ces théories pour connaître son intérêt. Donc on peut tout simplement se dire que du moment que quelqu'un en tire profit en embellissant ou en rabaissant une entité, un intérêt précis pourrait être à la base du mensonge.
Dans le cas des chemtrails, les compagnies aériennes et les gouvernements sont des sujets sensibles puisqu'ils pourraient être à la base de cette fausse vérité. On pourrait donc penser que toute personne ayant un éventuel souci avec les gouvernements en général ou les compagnies aériennes aurait pu créer cet intox pour s'attaquer à eux.
Merci de nous avoir écoutés. On espère avoir éclairé plusieurs doutes sur le sujet.
Sur Radio Bus, vous écoutez la radio la plus rapide. Radio Gymnase de Nyon, 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 Nyon.
Merci de nous avoir écoutés. Passez une belle soirée.
Bonsoir.
Merci.
Merci.